Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, voici donc le deuxième sermon sur la vocation sacerdotale, et je voudrais revenir sur la question de l'attrait pour le sacerdoce. Je vous ai dit que cet attrait n'était pas nécessaire, et je sais très bien que cela surprend, voire même que cela choque. Et je vous ai parlé du chanoine Laïton, dont j'ai relu le livre depuis dimanche dernier, et qui est très clair sur cette question. La vocation est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire répond à une situation et non pas à un goût. Nous avons beaucoup perdu l'habitude de nous considérer comme des serviteurs, je dis « nous », c'est-à-dire l'ensemble des hommes, je ne parle pas de nous les prêtres. Nous avons beaucoup perdu l'habitude de nous considérer comme des serviteurs à notre place, dans la société, pour la gloire de Dieu. Nous avons beaucoup trop tendance à chercher un épanouissement personnel qui va dominer au Concile Vatican II. Vatican II, c'est vraiment le triomphe de cette erreur qu'on appelle le personnalisme, c'est-à-dire dans laquelle on cherche tellement l'épanouissement personnel que Dieu est vu comme un moyen d'épanouissement, comme au service de cet épanouissement. C'est tout Gaudium et Spes, le document final du Concile, qui est le plus important de ces documents, et qui dit que l'Esprit Saint est au service du développement du monde. Et l'Église est elle-même au service du développement du monde. Quand il s'agit de nous en particulier, la tendance actuelle dans l'Église moderne, c'est pratiquement la définition du modernisme, c'est que le Saint-Esprit est au service de l'épanouissement de la personne. Et on entend parler de personne humaine, en veux-tu, en voilà, sans nous rendre compte que la personne humaine n'est digne que lorsqu'elle se fait servante de Dieu, comme la Sainte Vierge est grande parce qu'elle s'est dit « Ancilla Domini », servante du Seigneur. Il est évident que cela aura une grande influence sur la vocation sacerdotale. Si l'on cherche l'épanouissement personnel, il est évident qu'on ne fait pas passer le devoir, le bien de l'Église au premier plan, mais une satisfaction plus ou moins haute, plus ou moins élevée, plus ou moins surnaturelle, plus ou moins oublieuse de nous-mêmes. Malgré tout, le sujet passe avant l'Église. Par conséquent, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un jeune à choisir d'être prêtre sans consulter pour cela son goût ni son attrait? Au premier rang vient la gloire de Dieu par la célébration du sacrifice eucharistique. Se faire prêtre, rien que pour cela, c'est déjà considérable. Et Mgr Lefebvre nous disait que le prêtre qui a célébré sa messe a fait 90% du travail de sa journée. Célébrer le sacrifice eucharistique, qui étend dans le monde la gloire de Dieu, qui rend à Dieu une gloire inexprimable, puisque c'est celle du Fils de Dieu rendu à son Père. Cela est un motif pour devenir prêtre, j'allais dire que ça nous plaise ou pas. En réalité, vous comprenez bien que ça peut ne pas plaire à la nature, mais cela plaît nécessairement à toute âme bien née, à tout chrétien qui vraiment aime Dieu. Et à ce moment-là, le problème est inversé. Vous avez tout chrétien, tout garçon qui aimerait pouvoir honorer Dieu par la célébration du sacrifice eucharistique, et beaucoup qui vont constater, à leur grand regret, qu'ils n'en sont pas capables. Alors qu'aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On considère que cet honneur est réservé à quelques-uns et on cherche uniquement celui à qui cela plaît et celui qui a de l'attrait pour cela. Vous allez me dire, mais avec ma manière de voir les choses, tout le monde devrait être prêtre. Je vais y répondre à la fin, mais chaque chose en son temps. Un autre motif pour se présenter à l'évêque, c'est le devoir de servir l'Église. C'est ce que je vous ai expliqué au début, le bien commun passe avant le bien particulier. Nous sommes au service de l'Église et non pas l'Église à notre service. Une troisième considération, c'est la nécessité de sauver des âmes. Notre-Dame à Fatima a demandé à tous les chrétiens de faire des sacrifices pour les pécheurs. Or, celui qui devient prêtre offre le sacrifice eucharistique qui est le plus efficace pour le salut des pécheurs. Devenir prêtre, c'est offrir à Dieu la possibilité du salut des pécheurs d'une façon merveilleuse. Et on pourrait dire que Notre-Dame de Fatima, par conséquent, encourage vivement les vocations sacerdotales, parce que, encourageant les sacrifices, ce ne sont pas que les sacrifices personnels qu'elle demande, c'est bien sûr les sacrifices personnels, mais en dépendance du sacrifice eucharistique. Un autre motif pour devenir prêtre, tous les motifs se rejoignent, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Être avec le bon Dieu, c'est la charité. Et cette charité est conquérante, elle se répand, elle rayonne. Et le prêtre, à la fois, il vit dans la charité de Dieu, et en même temps, il rayonne cette charité. Saint Thomas d'Aquin enseigne que tout jeune homme devrait se poser d'abord la question de la vocation. Et si la réponse est positive, il n'y a pas à examiner d'autres possibilités, car on n'examine pas ce qui est moins parfait, quand on peut accomplir ce qui est plus parfait. Je sais bien que Saint Thomas dit cela à propos de la vocation religieuse, mais quoi qu'elles soient différentes, ces deux vocations, il y a quand même des points communs. Et de fait, beaucoup de bons prêtres feraient de très bons pères de famille. Et ce n'est pas une raison pour choisir le mariage plutôt que le sacerdoce. Et si on n'y fait pas attention, et qu'un jeune qui envisage d'être prêtre, on lui conseille d'examiner s'il ne pourrait pas également se marier, eh bien, au lieu de le rassurer, on le met dans le désarroi, parce qu'il pourrait faire les deux. Et quand il y a quelque chose de plus parfait, le choix est tout fait d'avance. C'est ainsi qu'on voit que beaucoup de saints évêques acceptèrent l'ordination épiscopale par devoir et malgré leur réticence. Bien évidemment, il n'est jamais question de forcer quelqu'un à recevoir l'ordination. De toute façon, l'ordination serait nulle parce que il faut nécessairement qu'elle soit acceptée. Mais sans forcer strictement, il y a beaucoup de saints évêques et de saints prêtres d'ailleurs qui furent contraints moralement. Et je vous ai dit pourquoi. C'est que des bons sujets, conscients de la grandeur de Dieu, craignent naturellement de ne pas pouvoir faire de bons prêtres. Tandis qu'au contraire, des mauvais sujets, moins conscients de la grandeur de Dieu, et donc moins humbles, trouvent tout naturel d'ambitionner un état élevé qui satisfait leur ambition. Et ils ne voient pas de problème à cela. Et par conséquent, si on acceptait uniquement ceux qui se présentent, et si on n'allait pas chercher ceux qui fuient, on finirait par avoir, dans beaucoup de cas, un mauvais évêque au lieu d'un bon évêque, des mauvais prêtres au lieu de bons prêtres. C'est ainsi que saint Paulin fut quasiment contraint à recevoir l'épiscopat. Il vit dans l'insistance de ceux qui le choisirent, il vit qu'il s'agissait là de la volonté de Dieu, et il écrit à saint Augustin « Ce n'est pas présomption de ma part, mais c'est pour répondre au choix et à l'ordination du Seigneur que j'ai accepté un tel honneur, quoique j'en sois indigne. » Vous avez saint Jean Chrysostome, alors c'est encore plus net. Saint Jean Chrysostome avait un ami, Basile, tous les deux décident de se faire ermite, moine ermite. Et pendant qu'ils discutent, il leur vient la nouvelle qu'ils ont été choisis tous les deux comme évêques. Leur réputation de sainteté était déjà établie. Saint Jean Chrysostome est affolé à l'idée de devenir évêque alors qu'il s'en croit totalement indigne. Et en bon ami de Basile, il voit, Saint Basile, hein, il voit toutes les qualités de celui-ci. Il va user d'un subterfuge. Saint Basile est lui-même dans la même situation que saint Jean Chrysostome. Il souhaite refuser parce qu'il se croit profondément indigne. Il consulte son ami Jean et lui dit « Que fais-tu ? En tout cas, nous faisons tous les deux la même chose. Nous sommes amis, nous ferons tous les deux la même chose. » Saint Jean Chrysostome en profite. Il lui dit « D'accord. Monsieur le Pomme, ce n'est pas le moment d'y penser. » Et le lendemain, ou quelques jours après, lorsqu'est venu le choix définitif, Basile se laisse entraîner par ceux qui l'ont choisi comme évêque. Il est tout étonné de ne pas voir saint Jean Chrysostome. On lui dit « Mais saint Jean Chrysostome est passé avant toi. Dépêche-toi, tu tardes. » Il se laisse sacré évêque. Puis il finit par s'apercevoir qu'en réalité, saint Jean Chrysostome a fui. Alors il vient le voir et il lui fait des reproches. Et Jean Chrysostome va se justifier, ce qui nous donne le traité sur le sacerdoce, écrit par Jean. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. L'Église ne l'a pas entendu de cette oreille. Elle a trouvé que ce Jean, qui était si humble, qui avait une telle estime du sacerdoce, qui l'avait si bien compris, était digne de devenir évêque lui aussi. Non seulement il fut évêque, mais il fut archevêque et patriarche de Constantinople, un des plus grands évêques de la chrétienté. Et il devint père de l'Église. Tout ceci, évidemment, à son corps défendant. Ce fut le cas également de saint Augustin, ce fut le cas de saint Antonin le Pieux. Alors, l'histoire d'Antonin est assez remarquable parce qu'il était religieux, dominicain. Il s'était déjà fait remarquer pour ses qualités dans son ordre, parce qu'il avait de grandes responsabilités. L'évêché de Florence en Italie était vacant depuis 7 ou 9 mois. Plusieurs candidats s'étaient présentés, mais ils ne convenaient pas au pape. Finalement, le pape décide de choisir Antonin, le religieux Antonin, lequel refuse. Alors le pape insiste, et Antonin refuse de nouveau. Alors le pape se fâche, et comme il avait affaire à un religieux qui est tenu à l'obéissance, il lui donne l'ordre, au nom de l'obéissance, et sous peine d'excommunication, d'accepter l'épiscopat. Antonin ne s'en tint pas là. Il se dit, est-ce que le pape ne va pas au-delà de son pouvoir? Il réunit un groupe de sages et d'amis pour leur demander s'il était tenu d'obéir à l'ordre du pape. Heureusement, ses amis lui disent que oui, parce que c'est la voix de Dieu et que c'est la voix de la raison. Vous voyez, même n'y aurait-il pas eu d'ordre du pape, il était évident, la suite va le prouver, que ce choix était raisonnable et qu'on n'a pas le droit de fuir quelque chose de raisonnable qui est pour le bien de l'Église. Donc il accepte, il est sacré évêque, et dans son humilité, il entre dans sa ville pieds nus, et le peuple l'acclame, tout heureux d'avoir un évêque si saint. Je vous ai dit qu'il y avait une objection. Si vraiment ceux qui sont conscients de la grandeur du sacerdoce devraient tous se présenter, alors pratiquement il n'y aurait plus de père de famille, il n'y aurait que des prêtres. Eh bien non, tout d'abord parce que tous n'ont pas l'aptitude. Et puis ensuite, parce que ce ne serait pas raisonnable, et l'évêque, dans les rares cas où cela arrive, où il a trop de candidats, l'évêque choisit les meilleurs et encourage les autres à se marier pour faire des bons chrétiens. Cependant, tous les auteurs disent que beaucoup d'enfants sont appelés à un état de perfection, et Saint Jean Bosco affirmait que un jeune sur trois ou quatre est appelé à la vie soit sacerdotale, soit religieuse. En tout cas, Saint Jean Bosco a suscité 4000 prêtres de son vivant, sans compter tous les effets induits, c'est-à-dire tous les autres prêtres qui ont été suscités dans ce mouvement général. Il faut que j'avance parce que je voulais vous parler des moyens d'avoir des bons prêtres. La recommandation essentielle de notre Seigneur pour avoir des prêtres, c'est de prier. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est la première chose. Il est possible que nous ne prions, il est même certain que nous ne prions pas assez, parce que Dieu est sage, et quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il fait. Et elle dit que si on prie, on aura des ouvriers. Par conséquent, si on n'a pas d'ouvriers, c'est qu'on n'a pas prié. Parce que le bon Dieu est assez fort pour susciter la vocation chez qui il veut. Un deuxième moyen, qui me paraît très important, c'est d'éduquer les jeunes au dévouement, de leur faire pratiquer les œuvres de miséricorde, corporelles d'abord et spirituelles ensuite. Car, voyez-vous, notre Seigneur est descendu sur terre par miséricorde. Et par conséquent, les prêtres du Seigneur doivent avoir des entrailles de miséricorde. Et pour former des prêtres, il faut former ces entrailles de miséricorde. Et plus on les forme jeunes, et plus on les forme profondément, et mieux cela vaut. Le dévouement, se pencher sur la misère, se rendre compte de la misère, la comprendre, la soulager. Tout cela devrait être au premier rang des préoccupations des parents. Les parents devraient se dire « Comment, à tel âge, puis-je faire pratiquer la miséricorde à mes enfants ? Et à tel autre âge ? Et dans telles circonstances ?» Et certainement, au milieu des persécutions qui s'annoncent, avec beaucoup de nos enfants qui seront obligés d'aller à l'école publique et de fréquenter des jeunes pas mauvais dans le fond, mais blessés, il faut leur donner la consigne de faire de l'apostolat, de faire beaucoup d'apostolat, un apostolat bon, cordial, plein de miséricorde, et il est évident que c'est cette situation difficile sera ce qui engendrera beaucoup de vocations si, je dis bien si, on a su pousser les jeunes à être apôtres. J'ai vu quel fruit cela portait. La recommandation de saint Ignace, c'est pauvreté, amour des opprobres, humilité et de là viennent toutes les vertus. Vous savez, je vous en ai plusieurs fois parlé, c'est la méditation des deux étendards. Il compare les méthodes du démon et les méthodes du Seigneur pour se choisir des serviteurs et des disciples. Et la méthode du Seigneur, c'est d'abord la pauvreté. Donc, famille chrétienne, parents chrétiens qui m'écoutez, posez-vous la question comment vivre dans la pauvreté. Pauvreté d'esprit, certainement, mais la pauvreté d'esprit, c'est pas simplement un vague désir de pauvreté. Elle va assez bien avec les œuvres de miséricorde, parce que si on donne beaucoup, ben, il reste peu. L'amour des opprobres, parce que notre Seigneur a été rassasié d'opprobres, et l'amour des opprobres donne l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Être fier d'être tradi, être fier d'être coincé, être fier d'être, de paraître sectaire, de paraître dur, de paraître sans charité, de paraître que sais-je. Enfin, troisièmement, l'humilité, et dans l'éducation, puisqu'il s'agit de former des prêtres, l'humilité passe par l'obéissance, une grande obéissance des enfants. Aujourd'hui, on leur parle beaucoup trop d'égal à égal. Je ne vous dis pas qu'à un certain âge, il ne faut pas leur parler un peu d'égal à égal, mais il ne faut pas aller trop vite. Et en tout cas, on ne peut parler d'égal à égal à un grand jeune qu'à condition de lui avoir fait pratiquer une profonde humilité, qu'il ait fortement le goût de l'obéissance. Enfin, bien entendu, le chapelet est le grand moyen d'avoir des prêtres. Je termine par une dernière considération. La vertu des parents est très importante. Pas seulement pour l'exemple, mais parce qu'elle fait passer quelque chose. On pense toujours à l'exemple, mais il y a plus profond que l'exemple. La vertu passe, elle fait passer quelque chose. Si les parents n'ont pas de vertu, ils ne feront rien passer. S'ils sont vertueux, ils feront passer. Une vertu très importante chez les parents, c'est la chasteté. Parce que notre Seigneur dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Et par conséquent, la chasteté conjugale est un grand moyen d'avoir des vocations. Je ne dis pas que les familles qui n'ont pas de vocation, c'est parce qu'elles ont manqué de chasteté. Je ne dis pas cela. Mais il est certain que la chasteté produit, engendre des vocations et des très bonnes vocations. D'où les méfaits aujourd'hui chez les traditionalistes de ces méthodes qu'on appelle naturelles qui permettent de soi-disant de réguler les naissances. J'avais un bon confrère un jour à il célébrait la messe. Au moment de la consécration, je vois qu'il pleurait. Après la messe, je lui dis « Je vous souhaite un bon anniversaire ». Il me dit « Ah bon ? Pourquoi vous me dites ça ?» Je dis « Parce que j'ai vu que vous pleuriez. » Et que je sais très bien pourquoi vous pleuriez. Il m'avait raconté l'histoire. Lorsque sa mère s'était mariée, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours obligatoire aujourd'hui, il fallait passer une visite médicale. Et le médecin lui a dit « Oh, madame, vous êtes de très faible constitution, deux enfants et encore. » Cette maman, très bonne chrétienne, profonde chrétienne, de l'Est de la France, se dit « Eh bien, cause toujours, tu vas voir. » Ce prêtre me disait « Heureusement que ma mère n'a pas écouté le médecin, elle a eu 9, je ne sais plus si c'était 9 ou 11, elle a eu 9 ou 11 enfants, et je ne suis pas dans les deux premiers. » Autrement dit, si elle avait manqué de générosité, je ne serais pas ici. Et je ne serais pas prêtre, et elle n'aurait pas eu la joie d'avoir un fils prêtre. Que Dieu vous bénisse, chers jeunes qui m'écoutez. J'espère vous avoir donné... Oh, je n'ai pas fait de grands effets, je n'ai pas fait parler le sentiment. C'est beaucoup trop grave pour cela. J'espère vous avoir donné... la grandeur, montrer la grandeur du sacerdoce et donner le désir de vous mettre au service de Dieu, j'allais dire même si cela ne vous plaît pas beaucoup, apparemment. Et puis, chère famille catholique, j'espère vous avoir donné un grand souci de former des bonnes vocations et de vous donner tout le mal qu'il faut pour cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.